La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Sébastien et bonjour à tous. C'est un sujet dont on parle peu. Un sujet qui n'intéresse pas, trop intime peut-être, trop délicat sans doute. Mais ce matin, le magazine L'Équipe a décidé d'en faire sa une et son dossier central, une enquête de 8 pages sur les règles dans le sport féminin. Pas les règles du sport, non, les menstruations des sportives. Et plusieurs d'entre elles ont choisi de briser le silence et de briser ce que l'hebdomadaire appelle le dernier tabou du sport. Ben oui, aujourd'hui je n'étais pas bien, ça tombe mal. Enfin vous voyez quoi. Combien de fois a-t-on pu entendre ce genre de propos dans la bouche d'une sportive à la sortie d'un terrain, sur le bord d'une piscine ou d'un bassin? Puis son coach, laconique, confiait à la presse, elle était comme elle peut l'être une fois par mois. Mais il n'en disait rarement davantage. Certaines, cependant, en ont dit davantage, notamment la joueuse de tennis britannique Heather Watson, en janvier 2015. Elle avait osé expliquer sa défaite prématurée à l'Open d'Australie par, je cite, « un truc de fille ». Idem au dernier jeu de Rio, quand une nageuse chinoise, sur une chaîne nationale, s'est excusée d'avoir laissé tomber ses partenaires du 4x100 mètres. « C'est parce que mes règles sont arrivées hier et que je me sentais fatiguée ». Dans un pays où les tampons sont encore culturellement très peu utilisés, elle a d'emblée accédé au statut d'héroïne. Et ce matin donc, d'autres sportives prennent la parole dans les colonnes du magazine. La record woman du marathon Paula Radcliffe, elle décrit les jambes lourdes, la rétention d'eau, la perte d'énergie. La nageuse Charlotte Bonnet, elle raconte les douleurs en haut des jambes et l'impression qu'un poids la tire vers le fond. Ballonnement pour les unes, bouffée de chaleur pour les autres, avec souvent des conséquences sur leur performance et puis des craintes pour leur tenue. Une vilaine tache rouge sur une jupette de tennis ou sur une combinaison d'escrime, voire une ficelle qui sort de l'échancrure d'un maillot de bain quand ce n'est pas une serviette hygiénique qui s'échappe sur un tatami. Toutes font part de leur honte et de la difficulté de parler du sujet avec des coachs qui souvent sont des hommes, comme d'ailleurs la majorité des médecins du sport. Bien sûr, il y a la pilule. Mais si l'on en croit ces sportives, celles-ci diminuent parfois le dynamisme. Autre problème, cette fois, c'est le problème inverse. Les filles qui, à force d'entraînement, n'ont plus leurs règles. Et là, ça fragilise les os. Il y a des risques accrus de fractures, des témoignages rares, des sportives qui parlent et veulent donc en finir avec le tabou des règles dans le sport. Et c'est donc à lire dans L'Équipe magazine.
Dans le milieu de la musique, c'est pas toujours simple non plus de s'imposer quand on est une femme.
Notamment pour les chefs d'orchestre. Place aux femmes, titre ainsi le supplément Et vous du Figaro ce matin. Photo de Nathalie Stutzmann, qui va diriger à partir de demain Tannhauser à l'Opéra de Monte Carlo. Elle est l'une de ces nouvelles figures féminines qui assurent la relève des chefs. Mais pour s'imposer à la baguette, les chemins a été long et Christian Merlin de rappeler que les stéréotypes ont vraiment la vie dure. Exemple, avec le professeur Jorma Panula, légendaire pédagogue qui a formé des générations de chefs d'orchestre et qui estime que les femmes sont bonnes à diriger Debussy ou Fauré, mais certainement pas Bruckner ou Mahler, qui réclament nettement plus de virilité. De son côté, le maestro Vassili Petrenko a jugé que les femmes chefs d'orchestre n'étaient pas une bonne chose, non, car elle crée, je cite, « un trouble érotique ». Parfois, les femmes sont découragées par l'aspect physique des choses, a même estimé le pourtant très brillant Bruno Mantovani, le directeur du Conservatoire de Paris, évoquant comme un frein physiologique pour les femmes. Cela dit, la situation progresse, lentement certes, mais elle progresse. De plus en plus de femmes, chefs d'orchestre, mènent aujourd'hui une carrière internationale.
En revanche, chez Ikea, on est plutôt dans la régression.
Un catalogue sans femmes pour les ultra-orthodoxes, c'est à lire dans Libération. Des livres religieux alignés sur des étagères, un père et ses deux garçons, portant kippa et papillote, une armoire remplie de vêtements masculins traditionnels. Le géant du meuble suédois Ikea a diffusé ce mois-ci en Israël un catalogue destiné à la communauté juive orthodoxe, sans la moindre photo de femme ou de fillette. Une version bien différente du catalogue israélien classique qui présente en couverture un homme et trois femmes, la tête et les bras nus. Face aux très mauvaises réactions, la marque a présenté ses excuses. Elle avait déjà effacé les femmes d'un catalogue destiné à l'Arabie Saoudite. Et en France, les femmes, où sont-elles? Eh bien, si l'on en croit le Parisien, c'est l'un des problèmes de la campagne d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a promis la parité pour les prochaines législatives, mais il peine, semble-t-il, à trouver des candidates pour représenter son mouvement En Marche. Demain, à son QG, sera donc organisée une journée consacrée à l'engagement politique des femmes.
C'est toutefois un autre candidat qui fait la une ce matin.
J'irai jusqu'à la victoire. Phrase signée François Fillon à la une du Figaro. Dans un long entretien au journal, le candidat Les Républicains à la présidentielle détaille son programme en matière de sécurité. L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, nous en avons déjà longuement parlé sur cette antenne, le rétablissement des peines planchers, plus d'équipements pour les gendarmes, plus de pouvoir pour la police et des postes supplémentaires, 16 000 places de prison en plus, mais aussi le retour de la suspension des allocations familiales pour les parents des mineurs récidivistes. Voilà pour le fond. Et pour la forme, il prévient donc qu'il n'a aucunement l'intention de renoncer, et ce, même en cas de mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse. Il avait pourtant dit l'inverse il y a quelques semaines. Changement de pied ce matin. Certes, il reconnaît que les conditions de sa campagne sont difficiles. Je dois tout affronter, les mensonges, les attaques et les opérations ciblées pour perturber mes déplacements. En l'occurrence, autour des salles de chacun de ces meetings se retrouvent dorénavant des dizaines d'opposants offrant un concert de casseroles. Et puis des slogans tout en rime, Fillon en prison ou Fillon rend-nous le pognon. Des opérations de déstabilisation lancées, selon lui, par la gauche, car c'est à elle que cela profite. Mais cela ne m'intimide pas, lance François Fillon, président, que désormais il s'en remet au suffrage universel. Emploi fictif, le Front National aussi, c'est ce qu'on peut lire à la une de l'Indépendant catalan. Après François Fillon, c'est donc maintenant à Marine Le Pen de s'expliquer suite aux révélations d'un rapport de l'OLAF, l'Office européen de lutte anti-fraude, son garde du corps au centre des emplois fictifs, précise Paris-Normandie. Sous une photo de la patronne du FN et du dit garde du corps, lequel aurait été rémunéré comme assistant parlementaire au Parlement européen, alors qu'il travaillait en fait pour le parti. Cela dit, Marine Le Pen refuse les accusations, indique la presse de la Manche. Elle a même annoncé qu'elle avait porté plainte contre l'OLAF. Mais dans la journée, l'organisme a confirmé que la députée européenne avait produit un constat de travail purement fictif concernant l'un de ses assistants. Et voilà qui tombe bien mal pour la candidate, note Olivier Beaumont dans les colonnes du Parisien, en rappelant que dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte pour abus de confiance et recel, faux et usage de faux, travail dissimulé et même escroquerie en bande organisée. C'est d'ailleurs avec des casseroles que Marine Le Pen a été accueillie hier soir dans le Jura, des casseroles en marge d'une réunion publique, une scène qui devrait faire se sentir François Fillon moins seul dans cette campagne, commente mon confrère. Et à gauche, où en est-on des discussions? S'achemine-t-on vers un accord entre le candidat du PS et le candidat écologiste Yannick Jadot? S'achemine-t-on vers un accord entre le candidat du PS et le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon? À la première question, la réponse est « on s'en rapproche, on se rapproche d'un accord ». À la seconde question, la réponse est « c'est compliqué ». En somme, et ainsi que le résume Midi Libre, Benoît Hamon cherche la formule magique de la gauche plurielle. Cela étant, il y a bien des frémissements de rapprochement, comme l'explique Libération. Les contacts se multiplient entre les trois candidats de gauche. Hier, Hamon a téléphoné à Mélenchon, juste avant ce dernier lui avait envoyé une longue lettre dessinant le périmètre et les conditions d'un possible rassemblement. Aucun contact avec Macron, refuser les accords CETA et TAFTA, garantir une nouvelle République. Avec la revue Regard, le journal propose par ailleurs d'organiser un débat public entre les trois candidats de gauche, un débat pour voir comment s'entendre sur une candidature commune.
Et Libé qui revient sur un autre tabou féminin, mais c'est un tabou musical celui-là.
C'est le tabou des chansons d'amour homosexuelles. En France, rares sont les chansons consacrées aux amours lesbiennes. On voit beaucoup de pingouins, mais beaucoup moins de pingouines chanter Juliette Gréco en 1970. Le constat pourrait s'étendre à la chanson où l'homosexualité féminine apparaît comme en retrait par rapport à son homologue masculin, ce qui n'empêche pas quelques morceaux marquants, nous écrit Patrice Demailly, Suzy Solidor, par exemple, le groupe Mécano, Catherine Lara, Véronique Sanson ou encore la chanteuse Maïsia.
Nos langues fourches attrapent coups, épaules, poignets et paupières, nos ébassantes, la réglisse, la dévotion, le piment vert, morsure de côte et peau caprice, de filles qui gémissent et qui jouent, et sur ta joue si lisse, le crime est parfait.
Ceux qui ne connaissent pas encore Maïsia auront ici la preuve qu'elle s'érige comme la digne héritière de Françoise Hardy, note Patrice Demailly dans Libération.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.